Vous écoutez, on lit pour vous.
Qui consulter pour vos douleurs? Un texte commandité, paru le 5 mai 2026 dans la presse. Acupuncture, chiropratique, massothérapie, ostéopathie et physiothérapie, chacune de ces spécialités peut vous soulager d'une multitude de douleurs. Elles reposent toutefois sur des approches bien différentes et leurs thérapeutes développent souvent des expertises particulières. Dans chacun des scénarios à suivre, qui serait généralement le mieux placé pour vous aider? Petit 1. Après une chirurgie, vous aimeriez retrouver un maximum de force musculaire et de mobilité. La physiothérapie. L'approche des physiothérapeutes repose sur une rééducation structurée par le mouvement, souvent après une blessure ou une intervention médicale, ou en cas de douleur chronique. Des exercices ciblés à effectuer à la maison sont couramment proposés pour consolider les progrès réalisés en clinique. Petit 2. Vous souffrez de maux de dos fréquents et des collègues vous font remarquer que votre posture a changé. La chiropratique. Les chiropraticiennes et chiropraticiens sont formés pour évaluer et traiter les troubles mécaniques de la colonne vertébrale. Leurs ajustements manuels visent à corriger la posture et à améliorer la mobilité articulaire, notamment en cas de douleur lombaire liée à un désalignement ou à une tension musculaire. Petit 3. Vous ressentez des tensions musculaires et avez de la difficulté à vous concentrer en raison d'un stress intense. Vous cherchez un moyen de vous détendre. La massothérapie. Les massages de détente sont conçus pour relâcher les tensions musculaires et favoriser un état de bien-être. Ils apaisent le système nerveux et offrent un répit bienfaisant face aux tracas du quotidien. Petit 4. Rien ne semble aider vos migraines. Vous accueillez favorablement l'idée d'une approche naturelle et holistique visant à rétablir votre équilibre intérieur. L'acupuncture. Les acupunctrices et acupuncteurs voient le corps humain dans son ensemble et cherchent à rétablir son bon fonctionnement en stimulant des points précis à l'aide de fines aiguilles. Cette approche peut apaiser divers problèmes de santé, dont les maux de tête, l'arthrose, les troubles digestifs et les douleurs menstruelles. Petit 5. Récemment, vous vous entraînez avec plus d'intensité et ressentez une fatigue musculaire accrue. Vous aimeriez vous en remettre plus rapidement afin de poursuivre votre lancée. La massothérapie. Les athlètes et les personnes très actives ont souvent recours aux massothérapeutes pour soulager les tensions musculaires et favoriser une meilleure récupération. Des massages réguliers peuvent aussi prévenir certaines blessures liées aux mouvements répétitifs. Petit 6. Après un léger accrochage en voiture, vous ressentez fréquemment des tensions généralisées et des engourdissements aux extrémités. Vous vous réveillez parfois avec un torticolis. L'ostéopathie. Les ostéopathes considèrent le corps comme un vaste ensemble de systèmes interreliés. En cas de traumatisme mineur, leurs manipulations en douceur peuvent aider à relâcher des tensions musculaires ou articulaires susceptibles de comprimer un nerf et de provoquer des engourdissements. Petit 7. Vos articulations vous font souffrir, en particulier vos hanches et vos genoux. Vous cherchez une approche structurée reposant sur des interventions directes pour soulager votre inconfort. La chiropratique. En plus des maux de dos, les ajustements chiropratiques peuvent soigner les douleurs articulaires au cou, à la mâchoire, aux hanches, aux jambes et aux bras lorsque la mécanique du corps est perturbée. Petit 8. Vous ne souffrez pas d'une blessure spécifique, mais plutôt d'un inconfort généralisé. Vous avez l'impression que quelque chose cloche dans votre corps. L'ostéopathie. Les ostéopathes analysent le corps dans sa globalité afin de déceler les déséquilibres subtils qui peuvent perturber le bien-être général. Cette approche est particulièrement bien adaptée aux maux diffus et persistants qu'aucune cause évidente n'explique. C'était « Qui consulter pour vos douleurs ?» un texte commandité paru le 5 mai 2026 dans la presse.
Le bonheur des Québécois. Un texte de Gérard Bouchard, historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité, publié dans Le Devoir du 9 mai 2026. En sous-titre, nos politiques sociales généreuses ajoutent un filet de sécurité et renforcent les liens collectifs. Le World Happiness Center, créé à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, effectue annuellement des sondages internationaux sur le bonheur des peuples. Ces sondages, qui placent régulièrement le Québec parmi les peuples les plus heureux du monde, me laissaient autrefois perplexe. Mais le sérieux de la méthode et les témoignages d'experts crédibles ont vaincu mon scepticisme. S'agissant du Québec, ses résultats se heurtent à des paradoxes, mais ils se dissolvent lorsqu'on met les choses en perspective. Les conditions du bonheur collectif. Selon des sondages complémentaires de la firme Léger et des travaux effectués par des chercheurs québécois, de McGill, de l'UQAM, de l'Université Laval, on doit porter attention aux fondements socioculturels de notre société, à savoir 1. L'identité. C'est un ensemble disparate constitué de valeurs, de références mémorielles, de traditions langagières, de perceptions de soi et de l'autre, de croyances, d'émotions, le tout s'exprimant dans une langue et un corpus de symboles les plus divers. Vu à distance, on comprend que les contenus de ces composantes ne sont pas toujours propres au Québec, par exemple le français, la démocratie ou le rapport au territoire. Ce qui leur donne un caractère distinctif, c'est l'intensité de l'adhésion dont ils sont l'objet et les modalités, les contextes de leur intériorisation. 2. Un sentiment d'appartenance. Il est créé par l'identité et engendre un lien social, une solidarité. 4. Un sentiment de sécurité. Cette composante découle des deux précédentes. Dans une société normale, le citoyen ne vit pas dans un vide. Il se sent intégré à un ensemble qui le situe psychologiquement, culturellement, socialement, qui lui fournit des repères à partir desquels il construit sa personnalité. 5. La cohésion sociale. Elle naît d'un ensemble de normes, de coutumes, de conventions et d'attentes que les membres d'une société partagent. 6. L'intégration collective. Elle est favorisée par la facilité de s'insérer dans la vie sociale, d'établir des liens et de participer à la vie courante, rythme, travail, loisirs, allégeance communautaire et autres. Sur tout cela repose le bonheur d'un peuple. Or, le Québec obtient une note élevée pour chacun des indices qui viennent d'être évoqués. Les travaux signalés plus haut montrent, par exemple, que les francophones de naissance se classent mieux que les membres des minorités, y compris les anglophones. Ils se signalent aussi par le sens particulièrement fort d'une identité, d'une appartenance et d'une solidarité. Les politiques sociales généreuses ajoutent un filet de sécurité et renforcent les liens collectifs. Les protections juridiques du français accentuent ces deux traits. Les coûts relativement bas de la scolarité entretiennent des perspectives de promotion sociale, etc. Sera-t-on surpris par le fait que les États-Unis, la nation la plus riche au monde, ne se classent qu'au 19e rang dans cette échelle du bonheur? Les données montrent aussi qu'une région éloignée, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, enregistre un score très élevé, ce qui concorde avec ce que l'on sait de cette population. Identité très marquée, solidarité, confiance en soi, audace, vive conscience territoriale, forte culture familiale, tempérament festif. Paradoxe. Les résultats québécois sont le lieu de deux paradoxes. Selon le premier, les sondages du World Center nous disent que notre société est très heureuse, alors que des diagnostics fiables établissent qu'elle ne va pas bien. La sociologie peut ici nous venir en aide. L'état désordonné dans lequel la coalition Avenir Québec laisse le Québec est contingent. Nous y verrons plus clair après les prochaines élections, mais il est assuré qu'une nouvelle gouvernance plus avisée, vigilante et disciplinée pourrait réparer les maux dont nous souffrons maintenant, des maux qui n'ont rien de structurel. Pensons aux problèmes du logement, à la gestion erratique des finances de l'État, à la précarité des institutions culturelles et des services publics, aux fouillis du système d'éducation, au délabrement des infrastructures. Tous ces maux résultent d'une gestion défaillante et peuvent être corrigés. Or, les conditions à l'origine du bonheur collectif relèvent toutes des structures profondes de la société, celles qui ont mis beaucoup de temps à prendre forme et qui sont capables de survivre à des conjonctures défavorables. C'est le cas notamment de la dimension identitaire, de la solidarité et de la cohésion sociale. On pourrait en tirer autant des fondements culturels de notre société. C'est seulement si les mauvaises conjonctures se multipliaient ou s'étiraient sur une très longue période que les facteurs structurels seraient affectés, entraînant un déclin de l'indice. Le second paradoxe semble renforcer le premier. Selon une perception générale, encore une fois parfaitement fondée, le Québec est une petite nation fragile, inquiète de sa survie. Des prévisions apocalyptiques se font même entendre périodiquement. Comment peut-on se sentir heureux dans ces circonstances? Je crois que c'est justement cette inquiétude qui nourrit ou accentue les traits collectifs mentionnés plus haut. Elle commande, en quelque sorte, l'érection d'un mur de protection contre un avenir menacé. Toute la société se mobilise à cette fin. Du même coup, elle dope les indices du bonheur en insufflant un besoin de rapprochement, de cohésion, de sociabilité et de solidarité. Les Québécois, dit-on, n'aiment pas la chicane. Ils craignent les divisions profondes, durables et tout ce qui ressemble à de la fragmentation collective, tout ce qui menace la cohésion sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils se méfient du multiculturalisme canadien et du néolibéralisme, deux systèmes qui favorisent l'individualisme. De même, ils craignent les effets du radicalisme. En matière de gouvernance, ils favorisent la concertation, le compromis, les consultations, la coopération, les alliances. Ce qu'on doit retenir de ces mesures du bonheur collectif, c'est que sous un jour qu'on pourrait tenir pour superficiel, elles témoignent à leur façon de la facture profonde d'une société. On aura aussi compris que les valeurs prises par l'indice d'une société à l'autre sont le produit d'arrangements, de montages structurels propres à chacune. Les nations scandinaves, unies par une histoire et un habitat commun, font peut-être exception. Je remercie Pierre Fortin et Mario Polaise qui m'ont aimablement signalé les résultats des recherches qui ont servi de base à ce commentaire. Fin de Le bonheur des Québécois, un texte publié dans la page Idées du Devoir du 9 mai 2026 sous la signature de Gérard Bouchard.
Ce soir-là, un texte de Thélyson Aurélien paru le 4 mai 2026 dans la presse. Les performances du Canadien de Montréal font vibrer tout le Québec, et la métropole en particulier, qui se transforme chaque soir de match éliminatoire, comme en témoigne l'écrivain Thélyson Aurélien. Il nous raconte une balade en ville pendant que tous les regards sont rivés sur les écrans. Ce soir-là, le Québec avait décidé de parler d'une seule voix, mais sans s'entendre au préalable. C'est ça le plus beau. Personne n'avait convoqué personne. Il n'y avait pas de mots d'ordre, pas de manifeste, pas de grand discours. Seulement des lumières allumées derrière des rideaux fatigués, des téléviseurs qui clignotent comme des lucioles modernes, et cette attente douce, presque timide, qui précède les grandes émotions. Je marchais sans but précis. J'aime marcher les soirs de match. On y voit mieux le pays que dans n'importe quel livre d'histoire. Les rues sont des phrases, les fenêtres des paragraphes et les cris des ponctuations imprévisibles. On n'a pas besoin d'entrer chez les gens pour savoir ce qui s'y passe. Tout déborde. Un homme sort d'un dépanneur avec une bière. Il regarde son téléphone comme s'il attendait une révélation. Une femme, appuyée sur un balcon, parle à quelqu'un à l'intérieur sans détourner les yeux de l'écran. Deux adolescents rient trop fort pour un événement qu'ils ne contrôlent pas. Une vieille dame ajuste son volume. Elle veut entendre, mais pas trop. Elle connaît déjà la fin de certaines histoires, mais elle accepte de les revivre. Ce soir-là, le hockey n'était pas un sport. c'était une manière d'habiter le temps. Le Canadien ne joue jamais seul. Il transporte avec lui une mémoire qui ne s'écrit pas, mais qui se raconte à voix basse. On ne dit pas toujours les noms, mais ils sont là, dans l'air, comme une rumeur ancienne. On les devine dans la façon de se lever d'un fauteuil, dans l'élan d'un cri, dans cette confiance étrange qui surgit même quand tout semble perdu. J'ai compris que certaines villes ne vivent vraiment que lorsqu'elles partagent une attente. Montréal est de celles-là. Elle n'aime pas seulement gagner, elle aime croire. Elle aime cette tension fragile entre ce qui pourrait arriver et ce qui n'arrivera peut-être pas. Elle aime l'incertitude quand elle est habitée ensemble. Dans un appartement du plateau, un père expliquait quelque chose à son fils. Peut-être la règle du hors-jeu, peut-être la patience, peut-être rien de précis. Il parlait pour transmettre un peu plus qu'un jeu. L'enfant hochait la tête, comme s'il comprenait déjà tout. On comprend toujours trop tôt ce qui compte vraiment. Plus loin, dans un salon trop éclairé, des amis s'étaient réunis. On avait apporté des chips, des opinions, des souvenirs. On parlait fort pour cacher l'inquiétude. On riait pour conjurer le sort. Chaque présence ajoutait une couche de chaleur à la pièce. Le match était un prétexte, mais un prétexte noble. Il permettait d'être ensemble sans justification. Ce soir-là, personne n'était complètement seul. Même ceux qui regardaient le match en silence participaient à quelque chose de plus vaste. Ils étaient reliés par un fil invisible, tendu d'un quartier à l'autre, d'un étage à l'autre, d'un cœur à l'autre. Une sorte de fraternité discrète, sans obligation, sans promesse, mais profondément réelle. Le bruit de la ville changeait. Il devenait organique. Il respirait. Un cri montait, puis un autre, puis une vague entière. On aurait dit la mer, mais une mer qui comprend le hockey. Les voitures ralentissaient sans raison. Les passants s'arrêtaient devant des vitrines pour capter un fragment d'image. On ne voulait pas marquer l'instant où tout bascule, car il y a toujours un moment où tout bascule. Une rondelle qui dévie, un tir qu'on n'attendait pas, un silence d'une seconde, puis l'explosion. Ce moment-là ne dure presque rien, mais il reste longtemps. Il s'imprime dans le corps comme une preuve que la joie collective existe encore. Ce soir-là, le Québec n'avait pas besoin de se raconter. Il se vivait. Il y a des peuples qui se définissent par leurs grandes déclarations, d'autres par leurs blessures. Ici, on pourrait dire que certaines vérités passent par des gestes plus simples. Une porte laissée entrouverte pour entendre le match du voisin. Un texto envoyé à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des mois. Tu regardes ? Une réponse immédiate ? Bien sûr. C'est dans ces échanges minuscules que se construit quelque chose de durable. On dira que ce n'est que du hockey. On aura raison. Et en même temps, on aura tort. Parce que ce « que » est déjà trop. Il réduit ce qui déborde. Il oublie que les êtres humains ont besoin de ces moments pour continuer à faire face à tout le reste. Ce soir-là, il n'y avait pas de grandes théories, pas de débats compliqués, pas de frontières visibles. Il y avait une nation attentive, tendue vers un point minuscule sur la glace et capable, pendant quelques heures, de se reconnaître elle-même. Quand le match s'est terminé, la nuit est restée. Mais elle n'était plus la même. Elle portait encore les échos, les rires, les soupirs. Elle avait été traversée par quelque chose de rare, une communion sans cérémonie. Je suis rentrée lentement. Les rues se vidaient, mais pas tout à fait. Il restait des traces. Une fenêtre encore allumée, une voix qui commentait un dernier jeu, un sourire sur un visage fatigué. Ce soir-là, le Québec n'avait pas besoin de se prouver. Il était là, simplement, dans sa manière de tenir ensemble, sans bruit inutile, avec une élégance tranquille. Et c'est peut-être cela, au fond, sa plus grande force. Qui est Élison Aurélien ? L'auteur est né au Gonaïves en mai 1988. Il a quitté Haïti après le séisme de 2010 et s'est installé au Québec. Il a publié 4 recueils de poésie parus entre 2006 et 2025. Son premier roman, C'était ça ou mourir, a été publié en mars 2026 chez Boréal. Il sera publié à l'automne chez Grasset. il a déjà publié quelques lettres d'opinion dans la section Dialogue, dont une sur son apprentissage des sacres québécois, qui a suscité de nombreuses réactions enthousiastes de la part des lecteurs. C'était, ce soir-là, un texte de Thélyson Aurélien, paru le 4 mai 2026 dans La Presse.
La convergence intelligence artificielle travaille. Un texte de Gérard Bérubé, paru le 25 avril 2026 dans Le Devoir. Il est attendu que l'intelligence artificielle, IA, sera perturbatrice pour l'emploi et sur la main-d'œuvre, et ce, très rapidement. Faut-il s'en alarmer? De projection en projection. Dans son rapport The Future of Jobs, 2025, publié en janvier 2025, le Forum économique mondial indiquait que les employeurs interrogés considéraient que les travailleurs pouvaient s'attendre, d'ici à 2030, à la transformation ou à l'obsolescence de 39% de leurs compétences sous le coup de l'enracinement de l'IA. Dans un texte publié par la Banque des règlements internationaux, il est souligné que la révolution technologique qu'elle engendre expose près de 40% des emplois dans le monde. Le Fonds monétaire international, FMI, évoque pour sa part une incidence sur environ 60% des emplois dans les pays à l'économie dite avancée. On accepte également le constat que, là où l'automatisation et les effets des technologies perturbatrices sur la main-d'œuvre concernaient traditionnellement les tâches répétitives, l'IA se démarque par sa capacité à toucher les emplois hautement qualifiés, à cibler davantage les travailleurs du savoir, généralement plus scolarisés. Tout n'est pourtant pas que sombre. Pour le FMI, parmi les emplois exposés, environ la moitié pourrait bénéficier de l'intégration de l'IA, qui se traduirait par un gain de productivité. Pour l'autre moitié, les applications de l'IA pourraient exécuter des tâches essentielles actuellement assurées par des êtres humains, ce qui pourrait diminuer la demande de main-d'œuvre, faire baisser les salaires et réduire les embauches. Dans les cas extrêmes, certains de ces emplois pourraient être amenés à disparaître. D'ailleurs, il ressort des projections de la firme d'analyse Oxford Economics que, selon le degré d'adoption de l'IA, 12% de tous les emplois ou tâches seront pleinement automatisés d'ici 2032. Mais on s'empresse d'ajouter que l'IA et les changements qu'elle amène ne seront pas sans également offrir des occasions de reclassement et de création de nouveaux métiers dont on ignore l'existence. Exposition québécoise. Le Québec ne se démarque pas. L'Institut de la statistique du Québec, ISQ, disait au début de février qu'en 2024, environ 59% de la main-d'œuvre au Québec occupait un emploi présentant une haute exposition à l'IA. On parle de quelque 2,7 millions de personnes. Et puisque cette avancée technologique s'étend aux tâches cognitives et non répétitives, on doit s'attendre à ce que les personnes hautement qualifiées, celles qui détiennent une formation postsecondaire, en particulier universitaire, soient plus à risque. L'ISQ estimait qu'environ 86% des emplois occupés par des personnes ayant une formation universitaire se trouvaient en 2024 dans une profession potentiellement hautement exposée, alors que cette exposition était plutôt le fait d'environ le tiers des personnes ayant un diplôme secondaire ou moins. En allant plus loin, l'ISQ a observé que ce degré d'exposition élevé pouvait concerner la quasi-totalité des professions où le télétravail est possible, du moins dans la mesure où ces professions exigent fréquemment des formations postsecondaires. Pour ce qui est des emplois où le télétravail est impossible, environ 69 % sont faiblement exposés. Poursuivant ce raisonnement et s'inspirant de la composition industrielle et professionnelle selon le genre, l'ISQ fait ressortir que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être exposées à l'IA dans leur emploi, à 71 % contre 49 %, ces derniers étant plus concentrés dans des professions de production. Mais là aussi, tout n'est pas que négatif. Le degré plus élevé de sensibilité se vérifiant autant dans les cas de forte complémentarité, soit dans des professions où l'on peut tirer profit de cette technologie, 35 % pour les femmes contre 26 % pour les hommes, que dans ceux de faible complémentarité, où les tâches pourraient être transformées ou effectuées par cette technologie, 36 % contre 23 %. La fracture des compétences. Nous sommes donc encore loin de l'alarmisme, voire de l'hécatombe. Et dans ce qui semble la revanche du terrain sur le numérique, l'agence spécialisée en emploi Randstad Canada propose l'illustration suivante. La demande explose dans les métiers concrets. Le secteur de la construction, par exemple, devra pourvoir 172 000 postes d'ici 2027, alors que 13 % de sa main-d'œuvre qualifiée part à la retraite. Dans le commerce et les services, la technologie automatise, mais c'est l'humain qui crée la fidélisation. Expérience client, gestion d'équipe, capacités relationnelles deviennent des compétences critiques. Dans son analyse prospective pour 2026, publiée en décembre, l'agence retenait que la majorité des travailleurs, 68 % étaient prêts à adopter l'IA. Nous entrons dans l'ère de la convergence de l'humain avec la technologie. La véritable limite de la transformation numérique n'est pas technologique, mais humaine. Randstad parle d'une nouvelle fracture, celle des compétences. En 2026, la limite à la croissance de l'IA ne sera ni l'outil, ni l'investissement, mais la disponibilité de talents capables d'allier leur jugement stratégique à la puissance de l'IA et d'en orchestrer l'adoption à grande échelle. Intéressant. C'était la convergence intelligence artificielle travail. Un texte de Gérard Bérubé, paru le 25 avril 2026 dans Le Devoir.